Question et réponse numéro 19. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Partie 2. Brian Kozurek, pasteur. 29 septembre 2007. Ce soir, je voudrais parler à nouveau de la nouvelle naissance, mais cette fois, pour la rattacher à notre changement de corps et à la préparation de la résurrection. La semaine dernière, lorsque nous avons commencé à examiner ce sujet, nous avons pris pour notre texte deux écritures qui nous donnent notre base pour comprendre la nouvelle naissance et comment nous la recevons. Jean 3:3, Jésus répondit et lui dit, « en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il n'est ému peut voir le royaume de Dieu. » 1 Pierre 1:23, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Nous avons vu qu'il y a deux choses qui ressortent de notre texte concernant la nouvelle naissance. 1. Sans la nouvelle naissance, vous n'y comprendrez jamais le royaume de Dieu. 2. Vous êtes né de nouveau par la parole de Dieu qui vit et demeure pour toujours. Par conséquent, la vie à la mesure de cette naissance devrait attester de la parole de Dieu. Maintenant, concernant le point numéro 1. Frère Branham a dit ceci dans son sermon, La foi de Marie souligné 21 janvier 1961 souligné Beaumont, Texas, USA paragraphe 30. Si un homme naît de nouveau, il n'aimait peu voir le royaume de Dieu. Eh bien, voir signifie comprendre. Beaucoup de gens disent qu'ils sont nés de nouveau, mais ils n'y comprennent pas le message de Dieu, et ils n'y peuvent pas voir l'ange du Seigneur. Leurs yeux sont aveuglés, frères. Si un homme naît du Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui a écrit la parole confirmera cette parole, et la même confirmation du Saint-Esprit en vous. Voyez-vous ce que je veux dire? Il rendra témoignage de lui-même. Alors notre esprit rend témoignage de son esprit, car son esprit rend témoignage de sa parole. Et dans il en sera comme il m'a été dit souligné 18 août 1950 souligné Cleveland, Ohio, USA paragraphe 23. De toute façon, voir Néhémie veut pas dire regarder. Le mot voir veut dire comprendre. Jésus a dit, si un homme naît d'eau et d'esprit, il naît peut voir le royaume de Dieu. En d'autres termes, il naît peut pas comprendre le royaume de Dieu avant sa nouvelle naissance. Voyez? Notez en particulier ce que Jésus dit. Il dit qu'à moins que vous naissiez de nouveau, il n'y a absolument aucun moyen pour vous de comprendre le message. Maintenant, nous pourrions continuer indéfiniment avec quelques douzaines de citations de F.R. Branham, concernant cette preuve de la nouvelle naissance, mes deux suffiront, puisque tout est établi sur la déposition de deux témoins. Ce que je voudrais regarder ensuite, c'est la différence entre la naissance naturelle et la nouvelle naissance. Jean 1:12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Ce mot pouvoir a été traduit du mot grec exousia, qui veut dire la capacité de prendre une bonne décision. Et quelle est cette bonne décision? Devenir ce qu'ils ont été ordonnés d'être. De devenir enfants de Dieu, même à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés, 13 non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous voyons donc que, ceux qui avaient la nature au point de le recevoir quand il s'est manifesté en la personne de son Fils, ce sont ceux à qui il a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Maintenant, ceci nous dit au verset 13, que ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire par votre propre volonté, ni par votre propre pouvoir. Mais la Bible dit que cette naissance Néhémie peut se faire que par ce que Dieu lui-même a fait. Nous voyons donc deux formes de naissance, Une qui est ester produite par un acte de la chair et celle qui n'est ester pas produite par un acte de la chair, mais par la volonté de Dieu. Alors celle produite par un acte de la chair, doit tendre vers la chair. Mais l'autre qui est ester née de la volonté de Dieu, doit alors graviter vers la volonté de Dieu. Alors c'est ester la seule naissance qui gravitera vers la volonté de Dieu, au lieu de la volonté de l'homme, parce que chaque semence doit produire selon son espèce. Dans Jean 3, 6, nous lisons, ce qui est ester né de la chair est ester chair, et ce qui est ester né de l'esprit est ester esprit. Vous voyez donc qu'il y a une différence de nature entre les deux types de semences. Dans 1 Pierre 1, 23, Pierre nous dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Nous voyons donc ce que signifie naître d'une semence corruptible, car la semence corruptible doit produire une vie corruptible. Maintenant, regardons la naissance naturelle pour voir comment l'âme et l'esprit s'unissent au corps pour former un être tripartite. Dans son sermon Le Consolateur souligné 1er octobre 1961 soir souligné Jeffersonville, Indiana, USA. Frère Branham a dit, paragraphe 52 s'ester juste comme un petit bébé. Quand un petit bébé ester conçu dans le sein de sa mère, s'ester juste de la chair et du sang qui gigote et qui palpite. Mais dès sa naissance, vous n'aimez le remarquez pas, il y a pourtant un esprit et une âme qui se tiennent près de la mère pour entrer dans le bébé dès qu'il naît. Aussitôt que ce bébé naît, Dieu a créé une âme et un esprit pour être dans ce bébé dès qu'il vient au monde. Ce petit bébé grandit et commence à apprendre. Puis il devient une âme vivante et il distingue le bien et le mal acquis. Ensuite, comme Adam et Ève, il se retrouve en face de l'arbre du bien et du mal acquis. Il fait son choix. Et après il devient intelligent. Il grandit constamment dans la grande économie de Dieu. Paragraphe 53 et finalement, il arrive au bout de la route, pour ce qui est ester de ce corps physique. Et de même que ce corps se détériore et se meurt, il y a un autre corps qui est ester préparé pour le recevoir. Dès que cette âme qui est ester en nous maintenant, s'en va d'ici, cet esprit quitte ce corps, il entre dans un autre corps, un corps jeune, bon, meilleur, qui n'aimé peut pas vieillir, et qui n'aimé peut pas mourir. Eh bien, il ester un Dieu bon. Et il ester certainement. Maintenant, cela fait de l'être humain un personnage très complexe, car il ester né avec un corps, qui est un esprit permis par Dieu. Alors, quand il naît de nouveau, l'Esprit de Dieu entre dans ce corps, et change la vie de ce corps, du mortel à l'immortel. Puis, lorsque son âme et son esprit quittent ce corps, il rentre dans un autre corps qui nous attend déjà. C'est ester pourquoi frère Branham nous a enseigné, que ce que nous sommes ici n'ester qu'un reflet de là où nous allons. Jairu et la guérison divine souligné 16 février 1954 souligné Wood River, Illinois, USA paragraphe 37b ce que vous êtes ici ester un reflet de ce que vous êtes quelque part ailleurs. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Ester ce vrai, ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Romains 8h29. Déjà dans la présence du Père, nous avons un corps glorifié. Ouf. C'est ester profond, n'ester ce pas? Très bien. Nous allons voir si c'est ester vrai ou pas. Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons déjà une qui attend. Ester ce vrai? C'est ester vrai. Ainsi maintenant même, et ce que nous sommes là, c'est ester le reflet. Ici, ce que nous sommes ici, c'est ester un reflet de ce que nous sommes quelque part ailleurs. Si donc vos œuvres sont mauvaises, vous savez d'où cela vient. Vous savez là où étant votre autre corps. Alors ma question est la suivante. Si mon corps terrestre n'est qu'un reflet de là où se trouve mon corps céleste, alors où est mon corps terrestre? Est-ce à l'église? En communion autour de la parole de Dieu? Est-ce en communion avec la parole de Dieu? Étudie-t-il la parole de Dieu, pour que je me voie comme un ouvrier approuvé, qui n'a pas à avoir honte? Ou alors, se nourrit-il des choses du monde? Demandez-vous d'où vient votre joie? Cela vous dira où se dirige le reflet de votre âme. Le dictionnaire de Webster nous dit qu'une attitude est la position ou la posture prise par le corps en relation avec une action, un sentiment ou une humeur. Une manière d'agir, de ressentir ou de penser, qui montre sa disposition, son opinion ou sa mentalité. On voit donc ici que l'attitude est une condition de croissance. C'est le reflet extérieur de notre état d'esprit. Et si votre attitude est le reflet de ce qui se passe dans votre cœur, alors le cœur et la pensée doivent d'abord être dans la bonne disposition, puis le corps n'émi reflètera que ce qui est à l'intérieur. Une fois que la pensée adopte une disposition de vivre, de mourir, de couler ou de se noyer, votre corps suivra. Tant de gens se promènent avec des attitudes si pourries qu'il faut se demander de quoi ont-ils nourri leur âme. L'attitude n'est qu'un reflet de l'intérieur. Maintenant, quand nous pensons aux conditions, nous pensons à la mécanique, mais quand nous pensons à l'attitude, nous voyons quelque chose de différent. C'est la rupture entre la mécanique et la dynamique. Vous pouvez avoir tous les mécanismes nécessaires et, comme l'a dit frère Branham, mettre un œuf vivant sous une poule morte, cela n'y marchera pas. Vous pouvez avoir toutes les bonnes mécaniques, toutes les conditions réunies, mais sans ce lien entre la mécanique et la dynamique, vous n'y serez qu'un légaliste. La mécanique sont des conditions. La dynamique c'est la parole vivante de Dieu en opération, et le petit lien entre elles, c'est votre attitude. Dieu a dit dans Genèse 1:11 la loi de la reproduction lorsqu'il a dit, chaque semence produira selon son espèce. Cela signifie que chaque semence reproduira la nature de la vie originelle de laquelle la semence est issue. Et la nature ou le caractère d'une semence, c'est ce qui distingue une forme de vie d'une autre. Les caractéristiques décrivent la nature, et notre caractère définit ce que la vie nous régit. Par conséquent, soit vous avez la nature de la bête régnant dans la chair, soit vous avez la nature même de Dieu qui gouverne et qui vit en vous. Et il n'y a qu'une chose que vous emporterez avec vous à votre mort, c'est votre caractère. Peu importe votre popularité ou la richesse que vous avez accumulée, tout cela restera ici. Lorsque vous mourrez, vous êtes dépouillé de tout ce que vous avez ou possédé. À une exception près, et c'est votre caractère. Voilà qui vous êtes. C'est l'essence de votre être. Et votre vie ici n'est que le reflet de votre destination. Maintenant, la chose que nous regardons ici c'est la nature de Dieu dans le croyant. En d'autres termes, c'est la vie de Dieu qui se reflète dans le croyant. Mais nous avons un problème. Nous avons cette chair à gérer. Et avoir les actions et la parole de Dieu, n'y précède pas avoir une pensée comme la pensée de Dieu lui-même. Et à moins que nous n'entretenions les pensées de Dieu, nous n'y pourrions jamais faire ou prononcer des paroles qui sont agréables à Dieu. 2 Corinthiens 5. Ah nous savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. De aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. 3. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. 4. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est terre mortelle soit englouti par la vie. 5. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps nous demeurons loin du Seigneur. 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. 8. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 2. N'aimez-vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce soir, je voudrais regarder l'ordre de la résurrection, comment les morts sortent en premier, puis nous nous réunissons ou nous réunissons avec eux pendant une période de temps, peut-être un mois environ, et parfois pendant cette période, nous recevons les changements de corps, puis nous montons à la rencontre du Seigneur à mi-chemin entre le ciel et la terre, quelque part dans un endroit élevé, ou une dimension supérieure aux trois dans lesquelles nous vivons maintenant. Les sept âges de l'Église souligné 12 mai 1954 souligné Jeffersonville, Indiana, USA 97. Sa grande et glorieuse présence frappera la terre. Il viendra sur des nuées. Oh, j'aime ça. Les nuées. Il y aura vague après vague de sa gloire qui parcourra la terre, et les saints ressusciteront. Les échappeurs à la pression souligné 18 mai 1962 souligné Green Lake. Vie. USA. 112. Voir où nous vivons. Amis. Que se passe-t-il avec les gens? Néhémie, pouvez-vous pas voir que nous sommes au temps de la fin? Tout est fini. La chose suivante qui balayera va, ce petit groupe ensemble. Dans un mois ou plus, ça sera infini pour elle, aussitôt rassemblée. Eh bien, nous sommes à la fin. Il n'y reste plus d'espoir nulle part. Courez vers Christ, peuple. Les sept âges de l'Église souligné 12 mai 1954 souligné Jeffersonville, Indiana, USA, 98. Le dernier sera le premier, et le premier sera le dernier. Comment cela pourra-t-il se faire ainsi? C'est l'ordre de la résurrection. Je ne m'y reconnaîtrai personne de la génération qui a précédé la mienne, ni de celle qui suivra la mienne. Je reconnaîtrai ceux de cette génération-ci. Et chaque génération viendra, l'une après l'autre, exactement comme elle était allée. Les derniers seront les premiers. Assurément. Absolument. Voyez-vous? Je reconnaîtrai les miens. Le suivant. Mon papa reconnaîtra les siens. Son grand-père reconnaîtra les siens. Ainsi de suite, comme cela, 99 vagues après vagues, après vagues, après vagues, et les saints ressusciteront de partout. Néhémie, sera-ce pas merveilleux? Nous attendons donc avec impatience une merveilleuse époque à venir, lorsque le temps de la résurrection s'installera. Nous qui sommes vivants et le demeurerons, nous serons enlevés avec eux. Puis nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous obtenons d'abord notre changement, puis nous allons à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est de cela que nous parlons depuis quelques semaines. Maintenant, comme nous l'avons constaté, Dans notre étude que l'apôtre Paul a dit, et frère Branham a également enseigné, que nous avons déjà été ressuscités spirituellement d'entre les morts. C'est-à-dire pourquoi nous ne devons pas tous mourir en premier. Il y a un groupe qui vivra, et nous qui sommes vivants et restons pour la parousie du Seigneur, serons changés en un instant, en un clin d'œil, quand la trompette retentira. 1 Corinthiens 15h51 Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, 52 en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, serons changés. 53 Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. 54 Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. 55 Ô mort, où est-ce ta victoire? Ô mort, où est-ce ton aiguillon? 56 L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. 57 Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 58 Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4h15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. 16 Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 17 Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 18 Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et quel réconfort ces paroles nous apportent, nous qui en avons assez de cette vieille maison de peste. Mais, le fait est que le cri a déjà commencé. Le Seigneur est déjà descendu avec un cri. Et ce cri est un message rassemblant rapidement son peuple. Ensuite, la prochaine chose c'est la voix qui, si vous vous en souvenez dans le ministère alpha de Jésus-Christ, quand il a crié à voix forte, les sépulcres s'ouvrirent, et de nombreux saints endormis ressuscitèrent et sortirent de ces tombes, après sa résurrection. Par conséquent, la voix forte s'estère de réveiller les vierges endormies, comme nous l'avons également vu dans Matthieu 25. Les sages se sont réveillés de leur sommeil, et comme Paul l'a dit dans Hébreux 11, ils doivent avoir ce ministère, car eux sans nous ne peuvent pas parvenir à la perfection. Ce soir, nous allons regarder ce processus de changement de corps. Nous savons qu'une voix forte estère un cri, donc je crois que la résurrection a déjà commencé. C'est un processus qui se déroule sur une période. Les vivants sont ressuscités spirituellement ou sortis d'un sommeil profond, ensuite ceux qui dorment dans la tombe. Mais les vivants d'abord vivifiés, puis les morts apparaissent dans la vie. Service de communion, c'est Grace Fellowship Tabernacle, avril 2020. Traduit de l'anglais en français par frère Serge Ngoy, sergentngoy@yahoo.fr, Moanda, Gabon.